Jésus. Et ce matin, eh bien, le sous-titre, c'est l'Évangile selon Joseph. L'Évangile selon Joseph. Et le passage que nous allons examiner ce matin est survenu il y a plus de 2500 ans. Et pourtant, il est aussi frais que du pain qui sort du four que l'on sert au repas le matin. On entend souvent des gens dire qu'il n'y a personne de trop méchant pour être sauvé, ni personne de trop bon qui ne pourrait pas être sauvé. Dieu veut tellement sauver les gens qu'il nous a laissé de belles, de magnifiques illustrations dans sa parole. Et l'une d'elles, c'est la fille de Joseph, qui est une image, une prophétie, un portrait de la personne de Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Comme nous l'avons dit dans les deux messages précédents concernant la personne de Joseph, à travers sa vie, eh bien, on a dit que la vie de Joseph se divisait en quatre parties. La première, c'est Joseph, le fils bien-aimé. Il était le fils bien-aimé de son père, comme c'était le cas pour Jésus. Deuxièmement, Joseph est le serviteur souffrant. Le père envoie Joseph vers ses frères. Ils vont le mépriser, ils vont le jeter dans une citerne, ils vont le vendre à des marchands qui, à leur tour, le vendront comme esclave en Égypte. Troisièmement, Joseph est le souverain qui a été élevé au-dessus de tout. Joseph sera élevé au rang le plus haut et il va devenir le premier ministre de la nation la plus puissante à ce moment-là sur la terre. Seul le trône élevait le pharaon au-dessus de Joseph. Et l'on criait devant Joseph lorsqu'il passait « À genoux, à genoux, à genoux ». Et quatrièmement, Joseph, un sauveur qui prend tous les moyens pour sauver les gens. Et chacune des quatre parties de Joseph est vraiment une image, un portrait de la personne de Jésus-Christ. Nous allons découvrir comment Joseph a pu attirer, pardonner et rétablir la communion entre ses frères et lui ce matin. Et dans le chapitre 45, nous voyons les frères de Joseph qui ont agi méchamment à son égard dans le passé et qui se retrouvent devant Joseph, qui a été élevé à la fonction la plus haute en Égypte. Prions. Seigneur notre Dieu, combien tu es bon de nous avoir laissé ta parole, Seigneur, qui est esprit, vie et vérité. Seigneur, ce matin, tu connais les besoins de chacun. Si tu connais les mauvaises expériences et déceptions, Seigneur, que chacun a vécues. Nous sommes dans l'enfance, nous entrons dans l'adolescence, nous regardons le monde avec des yeux qui brillent, nous voulons découvrir tout ce qu'il y a dans ce monde, souvent tout ce que ce monde veut nous offrir, et nous revenons à l'âge adulte, souvent avec des blessures, avec des cicatrices qui sont difficiles à fermer. Mais Seigneur, toi, tu es le Dieu qui accomplit des miracles. Seigneur, non seulement tu peux fermer nos cicatrices, mais tu peux complètement les effacer à travers le miracle de la nouvelle naissance. Et ce matin, Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont ici présentes, pour toutes ceux et celles qui n'ont pas la conviction de te connaître d'une façon tout à fait personnelle, que tu puisses parler à leur cœur. Mais en cela, Seigneur, ma prière, c'est que toutes ces personnes ce matin, y compris même celles qui te connaissent, qui t'appartiennent, qu'on puisse ouvrir vraiment notre cœur, Seigneur, devant toi, qu'on puisse vraiment se mettre à nu devant toi ce matin et de te dire, accomplis ton œuvre, l'œuvre que tu as réservée pour moi ce matin dans ma vie. Si, Seigneur, s'il y a des choses que tu dois nous parler, qui vont nous bouleverser, Seigneur, que nous puissions l'accepter, Seigneur, avec humilité, parce que nous savons que tout ce que tu vis, c'est vraiment de nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et tu le fais, Seigneur, non pas parce que tu nous détestes, non pas parce que tu nous en veux, mais parce que tu nous aimes. Et c'est en Jésus-Christ que je t'ai prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alors, les frères de Joseph ne savent pas, premièrement, qu'ils sont en présence de Joseph. Lorsqu'on lit le chapitre 45, il est habillé comme les Égyptiens, il parle la langue des Égyptiens et il est l'égal du Pharaon. De plus, Joseph a changé au fil des années. Ce n'est plus l'adolescent de 17 ans qu'ils avaient jeté dans une citerne 25 ans plus tôt. Pardon. Ils ne peuvent pas le reconnaître parce qu'ils ne s'attendent pas à l'avoir occupé une fonction aussi importante. Et je pense que dans le cœur des frères de Joseph, eh bien, il devait se dire, écoute, il est sûrement mort. Les marchands d'esclaves n'avaient pas une très, très grande réputation. Ils se sont peut-être dit, au fil des années, ben Joseph, il est disparu, il est mort, quoi. Enfin, une croix dessus, quoi. Pourtant, Joseph aime ses frères. Il veut les amener à reconnaître leurs fautes, parce qu'il veut leur montrer qu'il leur a pardonné, qu'il veut établir une relation avec eux. Et leur donner une mission à remplir. Quelle image concernant notre salut, frères et sœurs. Et ce matin, rapidement, il y a 7 principes dans ce passage qui touchent à notre salut, que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin. Le premier principe, c'est le principe de compassion. Les versets 1 à 3. Regardez ceux qui ont leur Bible, les versets 1 à 3. Que veut-on dire par principe de compassion? Voici en quoi consiste le principe de compassion. L'amour de Dieu est plus grand que tous nos péchés. L'amour de Dieu est plus grand que tous nos péchés. Pendant que vous cherchez le passage des versets 1 à 3, rappelez-vous d'une chose, il n'y a aucun péché, soit grand, entre guillemets, ou soit grave, entre guillemets, puisse-t-il être, qui peut empêcher Dieu d'avoir compassion pour le pécheur, qui peut s'empêcher Dieu d'avoir compassion pour vous. Paul était un meurtrier. Dieu a eu compassion de Paul. Paul cherchait à travers la religion la lumière. Dieu voyait que Paul était sincère, sincèrement dans l'erreur. Et Dieu, en Jésus-Christ, s'est présenté devant Paul. Il n'y a aucun péché qui puisse faire en sorte d'empêcher Dieu de manifester une compassion envers chacun de nous. Et j'espère que vous partez avec cette conviction-là ce matin. Vous avez une expérience de vie qui peut être terrible, qui peut être épouvantable. Il y a peut-être des choses que vous auriez honte de savoir qu'on puisse être mis au courant. Mais ça n'empêche pas Dieu de vous aimer. Ça n'empêche pas Dieu de vous chercher ce matin, vous attirer à lui et faire en sorte de vous faire passer des ténèbres à la lumière. Et non seulement de pardonner vos péchés, mais aussi de les effacer. On n'est pas capable de nous les effacer. Hein? Ils sont gravés dans notre cœur, hein? Comme un tatouage. Hein? Mais à travers le sang de Jésus-Christ, lorsque ça traverse dans notre cœur, eh bien, ce qui est gravé dans notre cœur, Dieu efface ces péchés-là parce qu'il nous donne un nouveau cœur. Amen. L'amour de Dieu est plus grand que tous nos péchés. Versets 1 à 3, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde! » Il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Écoutez bien, je suis Joseph! » Chers amis, pouvez-vous imaginer l'effet que ces trois mots ont eu sur les frères de Joseph? Ses frères le regardaient et il leur a dit, « Je suis Joseph! Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés. Le mot hébreu, c'est terrifié à sa présence. Chers amis, pour que nous puissions être sauvés, Dieu doit se révéler à nous. Et c'est ce qu'il a fait à travers la personne de Jésus-Christ. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Joseph va faire passer un moment difficile dans ses frères. Et dans un but, frères et sœurs, dans le but de les enseigner. Et on vit des moments difficiles, vous vivez des moments difficiles. Dieu a un but, il vise à vous enseigner. Pas à vous détruire, c'est pas ce Dieu-là qu'on a. C'est pas un dictateur, Dieu. Et heureusement que c'est pas un dictateur. Vous regardez les dictateurs sur la terre, c'est ce qu'on est capable de faire. Imaginez-vous Dieu qui est sans limite, s'il y avait le moindre mal en lui qui était un dictateur, il ne resterait plus rien, quoi. On revient à Genèse chapitre 1. Au commencement, eh bien, les eaux couvraient l'océan primitif, hein, la terre. Ouais. On reviendrait à ça, hein. Parce que personne n'est digne de vivre devant un Dieu trois fois saint. Personne. Si nous regardons chapitre 42, versets 7 à 9, il est écrit ceci, « Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas révélé à eux. Il leur parla durement. Il leur dit, « D'où venez-vous? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Qu'est-ce qui avait conduit les frères de Joseph en Égypte? Il y avait une famine dans le pays de Canaan et ils avaient faim, une famine provoquée par Dieu. Est-ce que vous savez que si nous n'avions jamais de problème, si nous n'étions jamais dans le besoin, nous ne viendrions jamais au Seigneur? Ou c'est français, ça, nous ne viendrions, non, hein? C'est québécois, ça passe. Nous ne viendrions jamais au Seigneur. Ah, voilà, j'ai trouvé. Nous ne viendrions jamais au Seigneur. Parce que Dieu nous aime et nous permet de vivre des moments pénibles et des situations difficiles pour que nous pensions à lui. Si seulement nous réalisions jusqu'à quel point Dieu souffre lorsqu'il nous voit souffrir. Est-ce que vous pensez que Dieu, comme certains d'entre nous, dans le passé bien sûr, pas aujourd'hui, on voit quelqu'un souffrir puis on se croise les bras pour dire « ben bon pour lui, ah, il a ce qu'il mérite ». Pensez que Dieu est comme ça? Pensez que Dieu est comme ça? Et on est loin, hein? Dieu pleure quand il voit ses enfants pleurer. Dieu pleure. Jésus a pleuré quand il a vu l'état de Jérusalem. Dans l'Ancien Testament, Jérémie nous dit que Isaïe dit que Dieu a pleuré. Dieu pleure. Et dans l'Ancien Testament, on parle de l'esprit. Dieu est esprit. Donc, un esprit, c'est... il ne peut pas pleurer. Alors, ça nous rappelle qui? C'est Jésus qui pleurait dans l'Ancien Testament. Encore une fois, sur le peuple d'Israël. Dieu pleure quand il voit ses enfants pleurer, frères et sœurs. Verset 42, verset 24. Joseph leur parlait durement, puis n'en vous pouvant plus, il s'éloigna d'eux pour pleurer. Vivez-vous des moments difficiles ce matin? Vivez-vous une situation qui vous donne des maux de tête ce matin? Vivez-vous une grande déception? Souffrez-vous en silence? Est-ce que vos enfants vous ont déçu au point où vous vous demandez même pourquoi vous les avez mis au monde? Alors Dieu utilise ces différentes choses pour vous ramener à lui, vous amener à lui, dépendant dans quel état vous êtes ce matin. Peu importe les apparences, Dieu vous aime et son amour est plus grand que tous nos péchés, que tous vos péchés. Quel moment mémorable cela a dû être pour Joseph lorsqu'il a dit « Je suis Joseph ». Joseph verse maintenant des larmes de joie parce qu'il est en mesure de se faire connaître à ses frères. Voilà donc le premier principe qui est le principe de compassion. Si vous n'êtes pas encore sauvé ce matin, dites-vous à vous-même, Dieu m'aime. Est-ce que tout le monde est capable de dire ça ce matin? Dieu m'aime. Oui, oui, attendez un peu. Ici?
Dieu m'aime.
Ah, je fais l'accent. Ici?
Dieu m'aime.
Là, je peux dire un amen là-dessus. Hein. Magnifique. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il y en a un seul qui essaie de vous faire croire que Dieu ne vous aime pas, c'est le diable. Il vous haït, il vous déteste tellement qu'il veut vous empêcher non seulement de connaître la vérité, mais de la comprendre pour vous amener au salut en Jésus-Christ. Si Dieu aime toutes les créatures, le diable déteste tout ce que Dieu a créé. Et le diable est en train de faire des ravages dans le monde. Et moi, je suis très mal, je vis très mal. J'habite pas au bon endroit. Hein. Achetez pas ma maison quand elle sera en vente, si jamais elle est en vente. Achetez pas ma maison parce que tous les jours, je vais passer des corbillards moi, qui s'en vont en revers moi. Hein. À chaque jour. Hein. Ouais. Et nous, on faisait des blagues au Québec quand on voyait un corbillard qui passait devant nous. On disait, ah, encore un qui a arrêté de fumer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, c'est pas ce que je me dis. Je me dis, il est où? Elle est où, cette personne-là, aujourd'hui? Celui qui s'en va, on dit à son dernier repos, celui qui s'en va, qui est dans le corbillard, il s'en va où? Il s'en va. Et je ne suis pas convaincu que le ciel s'agrandit si vite que l'enfer puisse s'agrandir, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on a un rôle à jouer. Et on va le voir dans le septième point. Septième principe. C'est d'aller annoncer ce qu'on a reçu du Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations », c'est un ordre qu'il nous dit. Et on doit obéir aux ordres du Seigneur. Et à chaque fois qu'on n'obéit pas aux ordres du Seigneur, eh bien, on désobéit. C'est un péché, hein? Je ne gêne pas pour vous le dire ce matin. On ne vous demande pas d'aller sur le coin des rues et crier comme des esservelés. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande, hein, et de passer pour des illuminés, mais au moins d'essayer d'ouvrir des portes quand l'occasion se présente pour témoigner de notre foi, pour dire ce qui fait notre espérance, ce qui a changé notre vie. Amen. Ah. Il y en a qui pensent que Dieu aime certains, qui n'en aiment pas d'autres. Dieu nous aime tous de façon égale et sans exception. Que nous ayons la peau rouge, jaune, noire ou blanche, nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Isaïe chapitre 43, verset 4, nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Vous avez une valeur incroyable aux yeux de Dieu. Les gens courent après des diamants. Vous avez vu dans les films, hein, les enfants qui descendent à des profondeurs épouvantables quoi, pour aller chercher des petites pépites de diamants. Où il y a des grands riches là, qui vont leur donner des miettes pour ça. Quoi. Parce que ça représente une richesse ici. L'or et les diamants, ça représente quelque chose de précieux dans notre monde. Mais pour Dieu, c'est de la boue tout ça. Quoi. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes la chose la plus précieuse aux yeux de Dieu. Christ ne serait jamais mort pour des diamants. Christ ne serait jamais mort pour de l'or. Mais pour le pire des pécheurs, Christ a accepté de mourir pour nous. Et si vous vous considérez comme étant le pire des pécheurs aujourd'hui dans cette baraque, eh bien, dites-vous que Dieu vous aime en Jésus-Christ et qu'il serait venu uniquement mourir pour vous. Quel Dieu merveilleux on a, quoi. Ouais. Le deuxième principe, c'est le principe de conviction. Personne n'est vraiment sauvé s'il n'a pas été convaincu de péché. Regardez comment Joseph va agir avec ses frères. C'est pas parce qu'il ne les aime pas, non, au contraire, c'est parce qu'il les aime et qu'il veut les amener à reconnaître leurs fautes et à se repentir. Et c'est ce qui va se passer. Regardez dans Genèse chapitre 42, verset 21. Je vous ai dit au début, là, écoutez, ils l'ont vendu à des Madianites, des Ismaélites, hein, ils vivent ensemble, et eux vont le vendre aux Égyptiens. On savait que les Égyptiens ne faisaient pas de quartier en principe aux esclaves. Et pour les frères de Joseph, il était sûrement mort. Alors leur péché, là, hein, d'abord, c'est pas eux qui l'avaient tué. Hein, eux, ils avaient simplement, on dirait même pas vendre, mais ils se sont simplement débarrassés de Joseph. Hein, il était nuisant, nuisible, alors on s'en est débarrassé. Mais regardez comment Joseph va agir. Et c'est exactement comment Dieu agit avec nous. C'est ça qui est merveilleux. Regardez, chapitre 42, verset 21. Il ne fonctionne pas. Fait marcher celui-là, il ne fonctionne pas, l'épine. Ils se dirent alors l'un à l'autre, hein? 42, là, ils sont avec Joseph, hein? Et ils s'en vont là. Et regardez ce qu'ils disent. Oui, nous avons été coupables. Ils reconnaissent pour la première fois leur culpabilité. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Les frères de Joseph les amène à un point. Vous êtes des espions, vous êtes ci, vous êtes ça. On n'a pas tout le texte de ce qui s'est passé entre eux. Mais regardez où Joseph veut les amener. Il leur a déjà pardonné. Tout le parcours de Joseph, hein, parce qu'il va devenir un leader, parce qu'il va devenir un dirigeant, Dieu doit apprendre à Joseph à pardonner, sinon il décapite ses frères quand il les voit. Et quelqu'un qui est pasteur, quelqu'un qui est ancien, quelqu'un qui est diacre, qui n'est pas capable de pardonner, ce n'est pas sa place. Sinon, on va se servir de la chair pour régler nos comptes. Sinon, on va tendre des pièges aux gens pour les coincer, pour s'en débarrasser. La première chose qu'un leader doit apprendre, c'est d'apprendre à pardonner comme lui-même a été pardonné en Jésus-Christ. Et quand on fait partie d'un conseil, c'est la même chose. Quand on fait partie d'un ministère dans l'Église, c'est la même chose. Si on n'est pas capable de pardonner, si on n'est pas à notre place. Amen. Et Joseph a appris cette dure réalité. Vous pensez que tout au long de son parcours, c'est vrai qu'il avait les yeux sur le Seigneur, c'est vrai qu'on n'est pas capable de trouver aucun péché chez Joseph. Ça n'empêche pas qu'il est mis au monde pécheur, comme tout le monde. Mais Dieu lui a appris des choses, lui a appris une vérité. Et là, il n'est pas responsable du G30, il n'est pas responsable du groupe féminin. Il va être au-dessus, il est égal de Pharaon. C'est là que Dieu veut l'amener. Il ne le sait pas encore, mais c'est là qu'il veut l'amener. Et la dure réalité, c'est Joseph. À travers ce que je suis en train de te faire vivre, c'est d'apprendre à pardonner. Tu vas vivre toutes sortes d'injustices, mais je veux que tu apprennes à pardonner. Laisse-moi me venger de ceux qui t'ont traité injustement. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, apprends à pardonner. Parce que j'ai une grande œuvre qui t'attend. Je veux faire une grande chose à travers toi. C'est pour cela que cette affliction nous arrive, dit-il. Ensuite, ils retournent. Les frères retournent à Canaan, mais la famine s'appesantissait sur le pays. Ils doivent revenir, et cette fois-là, Joseph va se révéler à eux. Regardez au verset 3. Du chapitre 45, pardon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, père, vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient terrifiés en sa présence. Pour quelle raison ne leur a-t-il pas été? Joseph était celui qu'ils avaient tellement détesté et traité de façon si horrible et si odieuse. Et voilà qu'ils se retrouvaient devant Joseph, la personne qui détenait les pleins pouvoirs en Égypte. C'est lui la main qui avait le droit de vie et de mort sur eux. Leur sort était maintenant entre ses mains et ils tremblaient devant lui. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et vous ne pouvez pas être sauvés tant et aussi longtemps que vous ne vous voyez pas comme étant un pécheur qui mérite d'aller en enfer. Dans Luc chapitre 18, pour ceux qui ont leur Bible, Luc chapitre 18, Jésus dit une parabole, la parabole suivante, à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et qui méprisaient les autres. Frères et sœurs, c'est pas mon enseignement, c'est l'enseignement de Jésus. Quand on est né de nouveau, il est impossible qu'on puisse mépriser notre prochain. Parce que ça va en l'encontre du commandement que Jésus nous a laissé, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. Aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus donne une parabole, regardez la parabole. pour ceux qui se pensaient justes, mais qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait à part et disait, « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » C'est comme si le pasteur était en avant et disait, « Oh Seigneur, je te remercie parce que je regarde les gens qui sont devant moi ici ce matin-là. Oh, je te remercie de ne pas être comme eux, quoi. » C'est ce qu'il est en train de dire, hein? Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine. Il disait, « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Frères et sœurs, je vous mets au défi de prendre une concordance, de regarder dans la Bible, dans les évangiles, toutes les prières qui commencent par « Oh Dieu, aie pitié de moi, Dieu a répondu à toutes ces prières. » Dieu a répondu à toutes ces prières. Puis je vous pose une question ce matin. Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez commencé votre prière en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi. » Combien de fois on vient devant Dieu en revendiquant des choses, en exigeant des choses, alors que Dieu ne nous doit rien? Oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ouais. Je suis rien, Seigneur, en dehors de Jésus-Christ. Je suis rien. Et Seigneur, je réalise ce matin en me présentant devant toi que c'est grâce que Jésus accomplit que je peux me présenter devant toi. Parce que ce n'est pas moi que tu vois, c'est Jésus que tu vois à travers moi. Et je peux me présenter en toute liberté devant le trône de la grâce. Oh Dieu, aie pitié de moi. Le fils de Timée, Bartimée, c'était sa prière. La syrophénicienne, c'était sa prière. Oh, aie pitié! Aie pitié! La foule, il venait avec la foule. Et le pauvre aveugle Timée, hein, pauvre Timée, quoi, ouais, qui criait, personne ne l'entendait. Quand Dieu dit, « Oh, Jésus, aie pitié! » Ah, ça a survolé la foule, hein? Dans les oreilles de Jésus, il s'est arrêté, hein? Et la syrophénicienne, elle a prié à quelques reprises. Hein? Jésus ne s'est pas retourné quand elle a prononcé le mot magique. « Oh, Jésus, aie pitié de moi! » Il s'est arrêté. Hein? Même ses apôtres, ils voulaient la chasser, ils la gardaient loin. « Hé, non, tu déranges le maître! » Après ça, ça monte à quand? On s'est présenté devant Dieu, on dit « Seigneur, aie pitié de moi! » Comme on a entendu une prière ce matin, parce que je ne fais pas toujours ta volonté. Aie pitié de moi, Seigneur. Merci de ne pas me rejeter, Seigneur. Merci de ne pas me traiter comme je le mérite, Seigneur. Merci que tu manifestes toujours ta grâce dans ma vie, Seigneur. Amen. Oh Dieu, aie pitié de moi. Jésus dit concernant le pharisien qui refusait de reconnaître qu'il était un pécheur et qu'il avait besoin d'être sauvé, que celui-ci est retourné chez lui en ayant gardé sa dignité, mais qu'il n'était pas sauvé. Frères et sœurs, il y a combien de gens qui viennent ici le dimanche matin, qui entendent le message de l'Évangile, qui entendent le thème, et plutôt que de s'humilier, préfèrent garder leur dignité et partir avec leur dignité, plutôt que de partir sauf. Il y a combien de gens qui font partie, qui sont membres des églises, et qui jamais vont s'humilier, de peur de ce que les gens vont penser. Jamais ils vont répondre à un appel. Ça fait tellement longtemps qu'ils entendent l'Évangile, mais ils n'ont jamais reçu, hein. Ce n'est pas le fait d'être convaincu de péché qui fait qu'on est sauvé. Hein? Non. La conviction doit nous amener à la repentance. Hein? Tant que ça n'est pas fait, on n'est pas sauvé. Hein? Je regrette. Hein? Ce pharisien, il a quitté les lieux. Digne. Ouais, mais pas sauvé. Hein? Et regardez ce que Jésus dit. Tandis que le collecteur d'impôts qui avait reconnu avoir besoin d'être pardonné et qui implorait Dieu d'avoir pitié de lui, est rentré chez lui, justifié. Avez-vous jamais dit, « Oh, Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Avez-vous jamais été convaincu de péché? Vous pouvez reconnaître que vous êtes coupable et ne pas être, je le dis, et ne pas être convaincu de péché. Un juge peut me convaincre que j'ai commis des crimes. Ma conscience peut me convaincre que j'ai mal agi. Mais il n'y a personne en dehors du Saint-Esprit qui peut me convaincre de péché. Je suis convaincu que personne ne peut être sauvé à moins de reconnaître d'abord devant Dieu qu'il est pécheur, qu'il est coupable et qu'il est perdu. Il arrive souvent que des gens se joignent à certaines églises comme s'ils devenaient membres d'un club social et qu'ils faisaient une grande faveur à Dieu. Ils ne se sont jamais vus comme étant des pécheurs devant un Dieu juste et saint. Nous avons donc ici le deuxième principe. Pour être sauvé, vous devez être convaincu de péché. Cela signifie reconnaître que vous êtes coupable pour pouvoir être sauvé. Troisième principe, celui de la conversion. Sa compassion montre qu'il vous aime, et ce, même s'il semble vous traiter durement. Ce qu'il vise, c'est de vous amener à vous convaincre de péché, à faire en sorte que vous vous convertissiez. Acte chapitre 3, verset 19. C'est un des premiers messages évangéliques. Repentez-vous et convertissez-vous. Et regardez le résultat de la repentance et de la conversion, afin que vos péchés, pas juste pardonnés, effacés. Et même en français courant, il est difficile de ne pas mettre le mot effacer, c'est effacer. Extraordinaire, quoi, quand vous pensez effacer. C'est comme si vous preniez un tableau avec une craie blanche et que vous écriviez tous vos péchés. Hein? Vous écriviez tous vos péchés. Bon, des péchés mignons, hein? Bon, pas grand-chose. Vous avez une mauvaise pensée. Bon, il y en a qui ne doivent pas avoir tellement épais, hein? Mais il y en a d'autres plus épais. Vous écrivez ça. Et regardez ce que le Seigneur fait. Vous venez à lui. Vous êtes convaincu de péché. Vous vous repentez. Il prend la brosse. Alors, moi, j'étais un vieux, hein? À l'époque, ce n'était pas l'informatique, ça devait être créé avec une brosse. Hein? Et des fois, on mettait la craie dans la brosse, je rentrais dans le milieu de la brosse, le professeur me parlait, il me faisait, puis ça barbouillait le tableau parce que j'avais mis une craie dans la brosse. Donc, j'étais discipliné, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait avec la grâce? Il efface les péchés, la parole, il s'efface tous. Tous les péchés retombent dans la poussière, dans la petite rigole, là, la petite rigole qu'il y a en bas du tableau. Maintenant, essayez de reprendre toute la petite poussière et essayez de recomposer avec la petite poussière. Toutes les péchés qui ont été effacés, c'est impossible. C'est la même chose avec Dieu. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il n'y a plus personne qui peut vous les remettre devant le visage, vos péchés, ils ont été effacés. C'est pas beau, ça? Peut-être quelqu'un qui cherche à commencer une nouvelle vie ici ce matin. Si vos péchés sont effacés, si vous êtes pardonné, si vous avez une espérance éternelle, vous pouvez prendre un nouveau départ. Et pas juste dire, j'efface mon ancienne vie, je recommence une nouvelle vie parce que le vieux Jean Cudon, il est mort. Moi, je n'ai pas 66 ans, j'en ai 33. Et je vais me rappeler le moins possible de mes 33 premières parce qu'elles sont épouvantables. Mais je m'en vais dans mes 33 deuxièmes parce que j'étais pas seul, j'étais avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un miracle de la nouvelle naissance. On continue. Verset 4 à 8. Joseph dit à ses frères, chapitre 45, verset 4 à 8, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. » Et regardez ça, c'est beau ça. « Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » C'est fort, hein? Écoutez, on va utiliser un mot très, très français. Les 11 frères de Joseph, à part de Benjamin, c'était des pourris. C'était des gens qui vivaient pour eux. C'était des gens qui baignaient dans le mal, qui baignaient dans le péché. Et pourquoi vous pensez que Jacob envoyait Joseph? Pas pour qu'il devienne un délateur, parce qu'il savait que Joseph ne se laisserait pas corrompre, parce qu'il savait que Joseph marchait droit devant Dieu, et que s'il y avait quelque chose de mal que les frères faisaient, Joseph viendrait le dire à son père. Le père avait un patrimoine, il devait le protéger aussi. Et regardez ce qu'il dit ici. « Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. En d'autres mots, c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous sauver. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. » C'est extraordinaire, ça, non? Il y a quelqu'un qui vous a invité à venir ici une fois? Bien, faites un X sur son nom. Ce n'est pas ce quelqu'un qui vous a invité ici, c'est Dieu qui vous a invité à travers cette personne à venir ici. Et peut-être que la personne qui vous invitait ne le sait même pas. Mais elle est un outil extraordinaire entre les mains de Dieu pour vous amener peut-être pour la première fois de votre vie à entendre l'Évangile, le pur Évangile. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Nous connaissons tous Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 10. Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Je l'ai en français courant. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. Car c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en œuvres bonnes ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Pas des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les regardions, dit le texte, mais pour que nous les pratiquions. Voilà le principe de conversion. Qu'est-ce que Joseph est en train de dire à ses frères? Il dit, écoutez, tout ce qui vous arrive, eh bien, ça, il faut le faire. Hein? Tout ce qui vous arrive, c'est par la grâce de Dieu. Vous m'avez vendu comme esclave, vous avez mal agi, mais à travers ce que vous avez fait, Dieu avait un but, Dieu avait un plan. Mes frères, dit Joseph, même quand vous commettiez tout ce mal, Dieu n'a pas cessé de vous aimer et il agissait à travers vous pour faire de moi un sauveur. Et c'est par pure grâce qu'il agit ainsi. Joseph n'est pas en train de minimiser le péché ici. Il cherche plutôt à faire ressortir la grâce de Dieu. Lorsque les frères de Joseph, lorsque les frères de Joseph ont mal agi envers Joseph et qu'ils ont abusé de lui, qu'ils ne le savaient pas, c'est que Dieu travaillait à travers eux pour manifester un jour sa gloire. Golgotha est la plus grande tragédie que le monde ait connue, mais ce fut là aussi que Dieu remporta la plus grande victoire. Lorsque Jésus, qui est Dieu fait homme, lui, le puissant Créateur, est mort pour des pécheurs tels que vous, tels que moi. Quel est le principe de conversion? C'est par grâce, par le moyen de la foi. Lisons à nouveau le verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi à partir de ce qu'ils viennent entendre. » Écoutez, ils ont une invitation. « Approchez-vous de moi et à partir de ce qu'ils viennent entendre, ils ont une décision à prendre. » Ils ont devant eux celui qui, après avoir souffert, a été élevé au plus haut rang et qui leur dit ceci. « Ce qui est arrivé fait partie du plan de Dieu. Les souffrances que j'ai supportées sont toutes à votre avantage. Et c'est pour votre bien que Dieu a permis que tout cela arrive. Il faut le faire. Il faut être capable de pardonner pour dire ça. Hein? Essayez d'imaginer ce que Joseph a vécu de 17 à 32 ans. Il faut vraiment être... C'est un pardon incroyable. C'est un pardon qui vient de Dieu, hein? Joseph est un enfant de Dieu. Il leur dit même pas, mais écoutez, heureusement que vous n'aviez pas mis d'eau dans la citerne. Heureusement que bon, vous m'avez vendu à eux plutôt qu'à eux. Non, c'est terminé. C'est terminé ce que Joseph a vécu. Dieu vous aime, c'est pour vous sauver la vie qu'il nous m'a envoyé devant vous. Approchez-vous. Il est écrit au verset 4. Qu'est-ce qui est écrit au verset 4? Approchez-vous. Et ils s'approchèrent. Ils ont répondu à l'appel de Joseph. Approchez-vous. Et ils s'approchèrent. Ils ont fait ce pas de foi. C'est comme si Joseph leur avait dit, venez à moi, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, mes frères. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et ils ont répondu quoi? Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé, agneau de Dieu. Je viens à toi. Tout cela par grâce, par le moyen de la foi. Et maintenant, Joseph leur dit, c'est bien, vous avez pris là une bonne décision, vous vous êtes approchés, je veux que vous sachiez que j'ai un plan pour vous, et c'est à travers des œuvres que j'ai préparées d'avance pour vous. Regardez ce qu'il dit au verset 6 et 7. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Joseph est le seul qui savait, qui connaissait ce qui surviendrait dans le futur. Dieu m'a envoyé devant vous, dit-il, pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu. Écoutez attentivement ce qu'il ajoute. Il m'a établi plaire de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. En d'autres mots, voici ce qu'il dit à ses frères. Mes frères, vous êtes entre bonnes mains. Je suis le seigneur de toute l'Égypte et tout cela a été rendu possible parce que Dieu m'a élevé au plus haut rang. Si vous n'êtes pas encore chrétien ce matin, permettez-moi de vous dire quelque chose concernant Jésus. Il n'est plus ce bébé qui se trouvait dans une mangeoire un jour. Non, Jésus est cet homme qui a été cloué sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la mer, et sous la terre, pardon. Et que tous proclament que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est par grâce que vous venez à lui, par le moyen de la foi, et vous vous prosternez devant le Seigneur. Peut-être que vous n'êtes pas sauvé ce matin, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être qu'il y en a dans la salle qui disent c'est un fou ça en avant qui est en train de parler. Hein? Et je ne vous en voudrais pas, parce que le premier qui m'a parlé, je pensais qu'il venait de notre planète, hein? Le premier chrétien que j'ai rencontré. Hein? Mais ce que je vous demande, hein, c'est que Dieu peut être en train de parler à votre cœur, parce que je cite les Écritures. Et vous pouvez prier dans votre cœur ceci, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité parce que mon bagage, mon expérience de vie m'empêche de te voir tel que tu es. Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux ce matin pour que je sorte d'ici de ce lieu en étant une nouvelle personne en Jésus-Christ. Je ne vous dis pas de faire une faveur à Dieu, mais de réaliser la faveur que Dieu vous fait ce matin dans ton évangile. La grâce qu'il vous accorde. Quatrième principe, celui de la confession. Une fois que nous donnons notre cœur au Seigneur, il nous faut le confesser ouvertement et publiquement. Voici ce que Joseph dit à ses frères à partir du verset 9. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, « Ainsi parle ton fils Joseph, Dieu m'a établi, Seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs et tout ce qui est à toi. » Là, je te nourrirai, car il y a encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi et ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Quel est l'enseignement qu'on peut retirer de ce texte ici? Joseph dit, écoutez, je vous ai pardonné. Je vous ai rétabli, j'ai rétabli votre relation avec moi. Il y en a d'autres à qui je veux me faire connaître. Je vous demande donc de le dire, que je suis vivant. Au verset 4, il dit, « Approchez-vous de moi. » Et au verset 9, il dit, « Hâtez-vous d'aller. » Vous avez reçu le salut. Allez porter ce salut aux autres. Allez. Soyez pas égoïste. Ne gardez pas ça pour vous. Allez. Distribuez. Vous avez reçu le salut gratuitement. Allez le donner gratuitement. Le Seigneur nous a donné une grande mission à remplir et c'est celle d'aller dans le monde pour parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Cela nous rappelle, bien-aimés, que tous les chrétiens sont des missionnaires. Tous les chrétiens sont des missionnaires. Tous ceux qui sont nés de nouveau doivent répondre à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que moi je vous ai enseigné. Tous. Vous n'êtes pas en plein temps, mais priez que Dieu va placer quelqu'un sur votre chemin. Dieu va répondre à votre prière. Peut-être encore plus celle concernant le salut, parce que Dieu a à cœur vraiment les hommes. Dieu a encore une grande compassion quand il voit le désastre dans ce monde pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Si vous demandez au Seigneur, « Seigneur, place-moi quelqu'un sur mon chemin aujourd'hui pour que je puisse y témoigner. » Dieu va placer quelqu'un sur votre chemin. Pourquoi? Parce qu'il va éveiller vos sens aussi. Il va éveiller votre sensibilité, justement, quand vous allez rencontrer quelqu'un, essayer d'ouvrir une porte pour prendre témoignage de votre foi. Mais il ne faut pas s'attendre à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un ou qu'on rencontre quelqu'un qui dit « Que dois-je faire pour être sauvé? » Hein? Ce n'est pas toutes les fois que les gens nous disent ça. Hein? Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas au courant, qui sont perdus. Hein? Vous savez comment dans les funérailles, il y a des gens maintenant qui s'habillent en blanc. Tout le monde s'habille en blanc à certains endroits dans les funérailles. Hein? Et j'en parlais cette semaine lors d'une visite. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand le cercueil sort maintenant? On ne sait pas où il s'en va, mais... Ça vous montre comment les gens sont égarés. Hein. Ça vous montre juste comment les gens sont résignés de ne pas savoir où ils s'en vont. Et la Bible me dit que ça, c'est l'esprit du monde. C'est le diable qui a placé un voile d'égarement devant leurs yeux. Hein. Pour leur faire croire qu'il y a une autre vie. Hein. Peut-être sur Mars, sur Pluton, sur la 5e galaxie, dans le trou noir. C'est pas juste la profondeur du trou, mais les gens vivent que de ça aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Parce que l'Évangile n'est pas prêché. On a une alternative. C'est un message extraordinaire. On a une alternative à toute cette philosophie qui envahit le monde. Les gens se suicident, prennent des médicaments, ils se piquent, c'est pas pour rien. Ils pensent en eux-mêmes qu'il n'y a personne qui les aime. Vous parlez avec une jeune fille de 23 ans, elle est rendue à 5e relation avec un garçon, ça fait 5 fois qu'elle est déçue. Quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils l'ont balancé. C'est la même chose pour les garçons. Et là, vous voulez parler de quelqu'un qui ne la balancera jamais. Quelqu'un qui est vivant. Hey, on a un message extraordinaire à partager, frères et sœurs. Est-ce qu'on croit à ce message? Mais quand on croit, on agit en fonction de ce qu'on croit. Comme je ne vous dis pas de courir dans les rues comme des écervelés, mais simplement dire, Seigneur, ouvre-moi une porte, ouvre-moi une porte. Manifeste ta gloire à travers ton enfant, aussi imparfait soit-il. Quel est le message que ses frères devaient partager? Voici le contenu du message. Premièrement, nous l'avons rejeté. On a rejeté Joseph. On a rejeté Jésus. On a rejeté Joseph. Deuxièmement, Dieu l'a élevé au plus haut rang. Troisièmement, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quatrièmement, le monde est maintenant à ses pieds. Cinquièmement, il se distingue entre 10 000. Sixièmement, il a pardonné tous nos péchés. Septièmement, il veut que nous soyons avec lui pour partager sa gloire. Voilà ce que les frères de Joseph devaient annoncer, et c'est ce que nous devons annoncer aussi aujourd'hui. Le cinquième principe du salut, c'est celui de la communion. Et quel est le principe de la communion? Vous avez été racheté, vous avez été pardonné, et il vous a accordé de vivre une relation privilégiée avec votre roi. Regardez ce qui est écrit au verset 14 et 15. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, il pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Est-ce que cela ne vous rappelle pas le père et le fils prodigue, frères et sœurs? Il embrassa tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Verset 5, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » Ses frères sont terrifiés. Il dit, « Approchez-vous. » Ils s'approchèrent. Il leur montre qu'il les a pardonnés en leur disant, « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé avant vous. » Verset 13, vous ne le savez peut-être pas, mais tout ce qui est arrivé, c'était pour votre bien. Dieu, dans sa grâce, vous a permis de participer au plan qu'il avait préparé d'avance pour vous, pour vous sauver. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé en Égypte, pour vous délivrer. Approchez-vous maintenant, allez dire aux autres tout ce que vous avez vu et entendu. Je suis vivant, j'ai tout reçu, je règne sur toutes choses. Allons partager ce message. Jésus est vivant, il a tout reçu, il règne sur toutes choses. Le même message. Ils ne veulent pas l'entendre. C'est son problème s'il ne veut pas l'entendre. Mais vous l'avez dit. Vous avez obéi à la parole. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir s'ils vont l'accepter ou pas. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Ce qui est important, c'est qu'on le dit. Et quand on le dit, que les gens l'ont entendu, qu'ils l'ont rejeté, quand ils vont comparaître devant Dieu, ils seront sans excuse. Parce que ce jour-là, quand ils vont comparaître devant le tribunal blanc, hein, pas le tribunal de grâce, le tribunal blanc, le trône blanc, eh bien Dieu va leur dire, écoute, attends un peu. Alors, on va reculer notre calendrier. Tel dimanche à telle heure, tu as entendu parler de l'Évangile. Tu as regardé le gars, tu as écouté le gars qui parlait en avant, tu as dit, ça, c'est pas pour moi. Pas de problème, mais le ciel n'est pas pour toi non plus aujourd'hui. Mais il t'est réservé une place que je n'ai jamais voulu que tu ailles, et c'est l'enfer. Dieu a tout fait pour épargner l'enfer aux gens. Tout. Il a tout fait pour les faire entrer au ciel. Tout. On a un Dieu extraordinaire, un Dieu merveilleux. Regardez ce qui est écrit au verset 14 et 15. Ah, je l'ai déjà lu. Ça, c'est le message qu'on doit annoncer, raconter toute sa gloire. Voici le message que nous avons annoncé. Qu'est-ce que verset 14 et 15? Oui, je vais le lire. Joseph se jette au cou de Benjamin. Qu'est-ce qu'il fait? Il le prend. Benjamin, il pleure. Benjamin, tu ne peux pas savoir comment je t'aime. Je suis là. Pas savoir comment je t'aime. Il n'y a pas un couteau. Dis, je t'aime. Non. Pas savoir comment je t'aime, je suis là. Et il l'embrasse. Ça, c'est le pardon de Dieu. Hein? Ça, tu as vécu le pardon de Dieu. Hein? Et quand vous vous présentez devant Jésus, jamais, jamais, il vous remet devant le nez les péchés que vous avez commis. Hein? Jamais. Parce que notre Dieu a un don incroyable. Quand un péché est confessé, c'est l'oublier. Pardonner, oublier. Écoutez la suite. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Frères et sœurs, lorsque vous répondez à l'appel de Jésus, que vous vous êtes approchés de lui, le bruit se répandit. Quand vous vous êtes approchés de lui, le bruit s'est répandu dans la maison du Père, que vous étiez sauvés. Ce qui fut agréable au Père et à ses serviteurs, les anges. La même chose au ciel, quand vous l'avez accepté. Voilà pourquoi on dit que les anges se réjouissent de voir un seul pécheur qui se convertisse, que 99 qui n'en ont pas besoin. Comme Pharaon, Dieu a trouvé ça agréable. Le ciel s'est réjoui de voir qu'une âme a plié le genou, a reconnu qu'il était pécheur, perdu devant Dieu, s'est repenti, s'est converti. Comme Pharaon, la cour du Pharaon s'est réjouie. Les serviteurs se sont réjouis. Pas moi qui le dis, c'est le texte. Hein? Ouais. Frères et sœurs, Dieu vous a sauvés. Jésus vous aime au point qu'il pourrait vous embrasser, pleurer avec vous et parler avec vous. Oh, quelle relation privilégiée nous avons avec lui. Il aime que vous preniez du temps pour parler avec lui. Il s'intéresse à entendre autant les petites choses qui vous tracassent que celles qui sont plus importantes, plus sérieuses. Vous vous dites peut-être, moi, je ne veux pas déranger le Seigneur. Moi, écoute, je ne veux pas quand même déranger le Seigneur avec des choses insignifiantes. Mes amis, il n'y a rien de trop insignifiant, il n'y a de trop important qui survienne dans votre vie, qui n'intéresse pas Dieu. Ce qui peut vous paraître une montagne aujourd'hui dans votre vie, représente aux yeux de Dieu ceci. Rien. Ce n'est pas catastrophique pour Dieu. Dieu a toutes les solutions pour vous consoler, pour vous réconforter, pour vous encourager, pour vous pardonner. Et pour continuer à vous faire marcher sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Le problème le plus important que vous pensez avoir, qui est en train de vous écraser, qui est en train de pomper votre vie, votre santé pour Dieu, venez l'amener devant le trône de la grâce de Dieu parce qu'il n'est pas plus important que ça pour Dieu. Venez le porter. Vous n'êtes pas fatigué de le porter. Hein? Vous êtes écrasé. Vous mesurez 1m80, vous êtes rendu 1m50 tellement vous êtes écrasé. Vous pliez. Et on est entêté, mais on est entêté, on est comme ça. Hein? Ouais. Il vous aime, il veut vivre en communion avec vous. Voilà pourquoi il vous a racheté. Il veut avoir plus que des serviteurs, il veut que vous le connaissiez, que vous l'aimiez, que vous viviez une relation étroite avec lui. Voilà en quoi consiste le principe de communion. Rapidement, les deux derniers. Le sixième, c'est celui de la rémunération, le principe de rémunération. Ce principe est incroyable. En quoi consiste le principe de rémunération? D'abord, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ensuite, il nous qualifie, puis il nous prend son service. Regardez ce qui est écrit au verset 17 jusqu'au verset 23. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. » Regardez, « Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur. » Tu es dans le monde, tu penses que tu vis le meilleur, bien viens au Seigneur Jésus-Christ, tu vas t'apercevoir que tu ne vivais rien dans le monde. Le meilleur est en réserve pour les enfants de Dieu. Et ce qu'il dit, c'est « Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur. » C'est une promesse au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire « Faites ceci, je vous ordonne de le faire. Prenez dans le pays d'Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. » Écoutez bien maintenant la suite. « Ne regrettez point ce que vous laisserez. » Car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Il y a combien de gens qui refusent de s'abandonner entièrement au Seigneur de peur de regretter ce qu'ils vont laisser? Combien de gens qui ont peur d'accepter le Seigneur parce qu'ils ont peur d'abandonner, de perdre, d'être perdant? Vous n'êtes jamais perdant avec le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, hein? Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tous les pays d'Égypte sera pour vous. Tout ce que Dieu a de meilleur est gris en réserve pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chariots selon l'ordre de Pharaon. Et ce n'est pas Joseph qui leur parle, c'est Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna aussi à tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte. Et 10 ânes chargés de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Frères et sœurs, quand le Seigneur nous a appelés dans le ministère, on devait vendre une maison, on devait vendre nos voitures, la piscine, pas de dette, on baignait, on était correct, on était bien. Et là, le Seigneur, il dit, je te déracine. Ah, moi, je priais souvent, Seigneur, si tu veux m'utiliser. Montre-moi sur une carte où tu veux m'envoyer avant, hein?
Oui.
Le Seigneur, il dit, tu vends tout. Hein. Je ne t'appelle même pas à me servir dans le quartier où tu habites, dans la région où tu habites, parce que tu vas être encore attaché à tes biens. Tu vends tout. Hein. Tu voudrais presque revenir sur ta prière. Hein. On n'a jamais été pardonné avec le Seigneur. Jamais. Jamais, jamais, jamais j'ai été pardonné devant le Seigneur. Et je peux témoigner aujourd'hui que jamais Dieu a manqué sa parole. Dieu a toujours eu en réserve le meilleur pour moi. Et si je n'avais pas obéi cette fois-là pour le servir, je ne serais jamais devenu pasteur. Je ne serais jamais venu en Belgique parce que le fait de vendre ma maison, c'était le point de départ qui préparait mon cœur, non seulement à quitter mon quartier, non seulement à quitter mon pays, mais à venir dans un autre pays que je ne connaissais pas du tout. Parce que la Belgique, la seule fois que je l'avais entendu parler, c'était dans les bandes dessinées de Tintin. Parce que quand vous regardez sur la carte, la Belgique, il faut presque la regarder avec une loupe, hein, du Canada. Hein. C'est pas gros, hein? Vous savez, le Québec, c'est 33 fois la Belgique. Hein? Donc, quand vous regardez le Québec par rapport à la Belgique, c'est un point noir. Hein? C'est un bouton d'acné, quoi. Hein? C'est pas plus grand que ça, quoi. Hein? Mais Dieu nous a donné le meilleur. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, ça fait partie de la vie chrétienne. Et c'est un test pour notre foi. Un chrétien qui n'a jamais de difficultés, là, il est mieux de remettre en question sa conversion, je vous le dis. Hein? Quand le diable vous laisse tranquille, vous êtes mieux de remettre en question votre conversion. Hein? Moi, je peux vous dire une chose, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais eu autant de problèmes que j'en ai eu hein, dans ma vie, dans mes 33 premières années. Hein. Jamais. Hein. Les 33 premières années, je les réglais moi-même, mes problèmes. Les 33 nouvelles, je suis obligé de laisser Dieu les régler. Et ce n'est pas avec mes solutions, c'est avec les siennes. Des fois, ça prend un peu plus de temps, mais quelle formation! Quelle formation! Je loue le Seigneur pour tous les problèmes qui me sont arrivés, parce que ça m'a fait grandir. Le meilleur, c'était mon cancer. Après ma conversion, c'est mon cancer. J'ai jamais eu une relation si proche avec Dieu dans cette période. Je voyais Dieu à côté de moi. Je priais à côté de mon lit le soir et je voyais Jésus à genoux à côté de moi, je le voyais. Il les envoie maintenant sans jamais mentionner en aucun temps leur culpabilité parce que tout ce qu'ils ont fait dans le passé est effacé. Il les appelle maintenant ses frères. Il les présente à Pharaon en disant, « Pharaon, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter mes frères, pas les chacals, pas des bandits, des pourris, mes frères. » Quand je lis ces versets, je prends ces Hébreux chapitre 12, verset 11, qui dit « Jésus est celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Malgré tout le mal qu'on a fait, malgré toutes les désobéissances qu'on a fait, Jésus n'a pas honte de vous appeler ses frères devant le trône de la grâce de Dieu. Il n'a pas honte de me présenter devant le trône de la grâce de Dieu en disant, « Père, je te présente mon frère Jacques. » Il n'a pas honte de vous appeler ses frères devant le trône de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, les ressources du trône les plus puissants, le plus puissant sur toute la surface de la terre, seront déposées aux pieds des frères de Joseph. Et s'ils ont besoin de quoi que ce soit, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de le demander au nom de Joseph, et il leur donnera ce qu'ils ont demandé. Et frères et sœurs, vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez. Jésus, c'est une promesse où on le traite de menteur. Vous ne le recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez, vous recevrez. Hey, frères et sœurs, on joue sur la réputation de Jésus à trouver des excuses. Hein? Souvent, ce n'est pas quelque chose qui ne va pas avec Jésus. C'est des fois, c'est quelque chose qui ne va pas avec nous que Dieu ne répond pas. Hein? Demandez, vous recevrez. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et un autre texte biblique nous dit, vous ne recevez pas parce que c'est pour des motifs égoïstes que vous demandez. Mais chaque prière doit être faite pour la gloire de Dieu. Dieu n'accepte pas autre chose. Uniquement pour se glorifier. Si votre prière n'est pas dans le but de se glorifier, Dieu ne répondra pas à votre prière. Dieu est un Dieu jaloux, ne partagera jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Amen. Oh, c'est moins dur, c'est plus dur celui-là. Hein? Qu'est-ce que cela nous enseigne à nous qui sommes sauvés? Romains chapitre 10, 12. Il n'y a aucune différence en effet entre eux et nous, puisque nous avons tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Joseph leur dit, écoutez les amis, je vous envoie en vous donnant une mission importante à remplir. Ne regrettez pas, verset 20, ne regrettez pas ce que vous laisserez. Quand allons-nous saisir cette grande vérité de ne rien regretter de ce qu'on laisse? Parce que ce qu'on laisse dans le monde, c'est appelé détruit, ça va passer au feu un jour. Mais ce qu'on reçoit de Dieu, ça va durer pour l'éternité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, la vie juste qu'il demande, et toutes ces choses vous seront données en plus. Car mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Quelqu'un m'a dit un jour, je crois que Dieu m'appelle à prêcher. Il faudrait que j'aille étudier dans une faculté, mais je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit, si tu rencontrais une personne très riche qui pourrait te soutenir, qu'est-ce que tu dirais? Il me regarda droit dans les yeux, pendant une gorgée d'eau, en me disant, qui est celui que tu connais qui pourrait être en mesure de soutenir? Je lui ai dit, celui qui possède le monde, le Dieu Tout-Puissant. Le juste vivra par la foi. Les vieux connaissent mon histoire, mais je vais vous la raconter, une petite parenthèse, 2 minutes. Hein. J'étais indépendant et le Seigneur m'a montré clairement que je devais rentrer à la faculté de théologie. Quand ça fait 15 ans que tu n'as pas été à l'école, là, le cerveau, il est vraiment, les bearings, ils ne tournent vraiment pas dans le bon sens. Hein. Je trouvais ça très, très difficile. Et à travers la petite entreprise que j'avais, je pensais d'être soutenu financièrement suffisamment pour les 4 ans. J'avais commencé au mois de septembre et début décembre, j'ai dit à ma femme, je dis, écoute, si le Seigneur n'intervient pas, au mois de janvier, je dois recommencer à travailler. Je dois abandonner la faculté. Vers le 21 décembre, troisième semaine du mois de décembre, j'ai reçu un héritage inattendu de 32 259 Mon hypothèque était de 32 159 Vous pensez que Dieu s'était trompé, qu'il m'avait donné 100 euros de trop? Non. Hein? Ça couvrait exactement les frais pour fermer mon hypothèque chez le notaire. Je n'avais pas de revenus en dehors de ma petite entreprise, hein, les abonnements. Frère et sœur, Dieu dit tout m'appartient. L'or, l'argent, tout. Si je t'appelle, il va pouvoir à tes besoins, voyons. Si je t'appelle, je vais ouvrir toutes les portes. Hein. Et si je t'appelle, quelqu'un veut t'empêcher d'y aller, il n'y a personne qui va se mettre entre toi et moi pour que tu puisses aller là où je te veux. On est un Dieu extraordinaire. Et on doit crier encore aujourd'hui. On doit faire des prières en disant, Seigneur, viens au secours de ma foi. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité dans un monde où on a tout ce qu'on veut à satiété. Parce que c'est difficile pour moi d'avoir cette foi que tu nous demandes d'avoir dans la parole. Je ne manque de rien, Seigneur. Je suis presque même capable de me passer de toi, Seigneur, tellement que j'ai tout. Viens au secours de mon incrédulité. Augmente la mesure de ma foi. Dernier point, rapidement. Lisons les versets 24 à 28. C'est le principe de communication. Puis il congédia ses frères qui partirent. Et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Hein, Joseph, il connaissait bien, hein? Ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Il essayait maintenant de communiquer le message qu'ils avaient reçu, mais Jacob ne les croyait pas. Vous allez essayer de communiquer le message aux gens, les gens ne vous croiront pas. Mais vous avez fait ce que Dieu vous a demandé, c'est ce qui compte. On n'est pas là pour convertir les gens. On est là pour leur transmettre le message qu'on a reçu. Regardez la suite. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph lui avait dites. Il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima à Israël, dit, « C'est assez, Joseph, mon fils, vient encore, j'irai, je le verrai avant que je meure. » Quel est le principe de communication? Comment communiquons-nous, frères et sœurs? Et la dernière partie, je m'excuse de prendre un peu plus de temps, mais elle est vraiment importante. Premièrement, on communique par notre amour. Dites simplement ce que je vous ai dit de dire. Ne vous disputez pas en chemin et ne perdez pas votre temps dans des discussions inutiles, dit Joseph. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment on communique l'Évangile à l'amour qu'on a pour les autres? Un des grands moyens que nous avons pour convaincre les Jacob de ce monde est à travers l'amour que nous avons reçu d'en haut. Pas l'amour d'en bas, ça ne vaut rien, c'est un amour humain. L'amour d'en haut, c'est l'amour de Dieu qui a transpercé le ciel, qui est venu se déposer dans mon cœur quand j'ai pris une décision pour le Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement à travers notre amour, mais avec notre bouche et surtout par notre façon de vivre. Voilà les trois, comment on communique l'Évangile en 3 points. Notre amour, notre bouche, notre façon de vivre. Si un des trois fait défaut, s'il y en avait un des trois qui avait fait défaut chez Jésus, qu'est-ce que vous auriez fait? Jésus, eh oui, hein? Et on aurait eu raison. Hein? 3 moyens de montrer qu'on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. 3 moyens qu'on peut montrer aux gens proclamer l'Évangile, sans sortir un gros message de 45 minutes. L'amour qu'on a pour les perdus. Les paroles qu'on va communiquer à ces gens. Et notre façon de vivre. Est-ce que notre façon de vivre, elle est chrétienne à la maison? Est-ce que notre façon de vivre, elle est chrétienne au travail? Est-ce que notre façon de vivre, elle est chrétienne lorsqu'on on rencontre des gens à l'extérieur? Jacob ne croyait pas, c'était trop dur pour lui entendre, mais il leva les yeux, il vit ses chariots, il vit toute cette abondance dans une période de famine extrême. Il s'est probablement dit, ils reviennent avec tous ses étoffes et tous ses chariots remplis à pleine capacité. Il est impossible que mes garçons, les connaissant bien, aient pu obtenir cela par leurs propres moyens. C'est donc vrai que Joseph est vivant. Frères et sœurs, par notre amour, par nos paroles et par notre façon de vivre, nous amenons les gens à croire. Le premier évangile que j'ai entendu, c'est le bonhomme qui était devant moi. Je n'ai rien compris de ce qu'il a dit, mais lui, ce qu'il avait, je voulais l'avoir. Il ne m'a jamais dit « Jésus t'aime hein. ». Mais sa manière de me parler, sa manière de se comporter, et l'amour qui dégageait ce gars-là, j'avais jamais rencontré ça dans ma vie. C'est comme si j'étais avec un deuxième Jésus devant moi. Et quand j'ai rencontré plusieurs semaines après pour lui annoncer que j'avais été sauvé, il m'a dit, maintenant je vais te dire, j'ai passé 2 heures avec toi, tu étais super décourageant par tes répliques. Mais il m'aimait. Et il vous aime. Jésus vous aime. Peu importe votre réaction, ça n'empêche pas Jésus de vous aimer. Mais c'est ce qui va attirer les gens. On doit être un évangile vivant. Les gens ne veulent pas voir des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Les gens veulent voir des gens qui connaissent le Dieu de la parole. Les pharisiens connaissaient la parole de Dieu par cœur. C'était des religieux, pas sauvés. Ce que cette génération a besoin de voir, c'est des gens qui connaissent le Dieu de la parole, qui ont une relation personnelle et intime avec lui, qui l'ont rencontré. Et que quand vous rencontrez quelqu'un, vous parlez avec lui. Que cette personne-là, quand vous la laissez, elle se dit, hey, « Moi, j'aimerais savoir ce qu'elle a. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'aimerais savoir ce qu'elle a. » C'est après ça que je cours depuis tout. C'est ce que je me suis dit. Hein. J'ai dit, « Où je peux trouver ma réponse? Où je peux trouver ma réponse? » Lui, il coule comme un... Hey, « J'aimerais ça qu'il revienne ici. Hein. J'aimerais ça qu'il vienne ici une fois. Hein. » Il est un petit peu plus vieux que moi, mais ça prend 2 ans, je pense, mais super forme. Il m'a dit, et là, je paniquais, hein, parce que j'étais placé devant l'éternité pour la première fois de ma vie. Je paniquais, je voyais un gros trou devant dans son salon, puis je me voyais tomber dedans. Puis j'essayais de m'accrocher, je me voyais perdu pour l'éternité pour la première fois de ma vie, quoi. Ah, oh, ben, il dit, va dans n'importe quelle bonne librairie, achète-toi une Bible. Ouais, mais la Bible, je lis quoi dans la Bible, vous trouvez ma réponse? Lui, l'Évangile de Jean... Un deuxième Jésus, il ne m'a pas forcé, il m'a transmis ce qu'il vivait avec le Seigneur. Vous savez ce qu'il a fait? J'étais dans une famine spirituelle épouvantable. Et cet homme, il m'a donné à manger, il m'a donné à boire. J'ai été rassasié, pas suffisamment, je voulais avoir une Bible pour continuer à manger. Les gens dans ce monde ont besoin de ça, frères et sœurs. Est-ce que vous savez qui va convaincre ce monde? C'est lorsque les gens verront que nous sommes unis avec des chariots remplis à pleine capacité de la grâce de Dieu. C'est-à-dire lorsqu'ils verront en nous ce qu'ils ne peuvent pas expliquer autrement qu'à travers la bonne main de Dieu qui est sur nous. J'aspire à cela, et vous? Je vous ai dit qu'il y avait 7 principes concernant le salut. Le premier, Dieu vous aime. Deuxièmement, le même Dieu qui a écrit le livre de la Genèse est le Dieu qui veut vous sauver aujourd'hui. Peu importe ce que vous avez fait de mal dans votre vie. Vous pouvez être juste un adolescent ce matin. Dieu veut vous sauver. Vous pouvez occuper une position libérale. Dieu veut vous sauver. Vous pouvez être un jeune retraité. Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous sauver. Je vous invite à incliner la tête. On va prier en terminant. Pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés, Combien de personnes peuvent dire ce matin, « Pasteur, j'ai la certitude que si je meurs aujourd'hui, je vais aller directement au ciel parce que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis né de nouveau par la grâce de Dieu. » Pendant que les têtes sont fermées, les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés, pouvez-vous lever la main ce matin? Dire, « J'ai la certitude que si je meurs aujourd'hui, ma place est au ciel. » Si vous pouvez la baisser. Combien maintenant, je ne vous demande pas de lever la main, combien maintenant, au plus profond d'eux-mêmes, ne peuvent pas dire, « Pasteur, je ne suis pas certain. Je pense que je suis sauvé, mais je ne suis pas certain. » Si c'est votre désir ce matin, je vais prier maintenant pour vous. Père, je prie pour ceux qui ne pouvaient pas lever leur main ce matin et qui veulent dire oui à ton invitation de recevoir ton pardon à travers Jésus-Christ. Pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés, si vous voulez être sauvé, vous pouvez répéter la prière suivante dans votre cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi pour satisfaire ma faim ce matin et pour m'aider au quotidien. Je sais que tu m'aimes et je te remercie de t'être révélé dans ma vie. Je viens à toi, Seigneur Jésus, tel que je suis. Merci de m'accepter, de me sauver. Aide-moi à ne jamais avoir honte de toi et donne-moi le courage de témoigner ce que tu as fait pour moi. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Je ne fais pas d'appel ce matin, je ne fais pas avancer.